Tu me tueras si tu t'en vas. Simplement si tu t'en vas. Si un jour j'ai honte de mes anciens copains, si je serre les fesses plus fort que les poings, si je deviens nouveau con et ancien battant, si je me révolte plus qu'entre deux calmants, tue-moi.
La liste de sujets avec Dan Bigret est assez longue ce matin. Bon, le show du refuge, bien sûr, il sera là à l'antenne 98.5 durant la période des fêtes, mais surtout cet album double live, Dan Bigret x 4, c'est quelque chose. Dan, bonjour.
Salut, Paul. J'essaie de me remettre un peu de mes émotions. Les feux de l'amour.
Non, ça c'est sûr que ça vient te chercher, je te comprends. Là, mais écoute, dans un contexte où il n'y a pas de spectacle avec le public, dans un contexte où on a l'impression que ça fait des années et des années qu'on n'est pas allé dans une salle, de retrouver un album live comme ça, je sais pas, ça a une autre connotation.
Tu dis la même chose que mon fils. Mon fils, il coupe pas mes tunes. Je fais ça depuis sa naissance. Pour lui, c'est pas spécial. Mais quand il est venu écouter le disque, puis à un moment donné, dans le disque, parce qu'on décolle, puis la foule crie, il dit « Papa, c'est ça que le monde a besoin. » C'est pas son métier, lui, de deviner que le monde a besoin de quelque chose du tout. Il a dit ça sincèrement. Là, j'ai compris que c'est à cause de ça. Parce que là, il attendait tout le monde ensemble, puis ça lui faisait du bien. Fait que ça, là, je dis « OK, bon, on va le sortir, là, de bord. »
Et ça a été enregistré à Québec, hein, c'est ça?
Au Petit Champlain.
Mais pour un artiste comme toi, là, bon, de faire du studio, tu connais ça, de faire des prestations dans des émissions de télé aussi, est-ce que la scène, ça demeure ce qu'il y a de plus magique?
Je fais tout le reste pour pouvoir faire de la scène. C'est ce que j'ai fait toute ma vie, mais des fois de la scène devant trois personnes, dans des bars, dans mes débuts, tout ça. Mais c'est ce que j'ai toujours fait. J'ai appris mon métier devant du monde. Même le show du refuge, d'habitude, se fait devant du monde. J'ai deux choses qui sont importantes. J'ai ma job à moi, là, faire des shows le plus possible. C'est ça que j'aime faire le plus sur la terre. Puis le refuge. Alors moi, mon métier à moi, ça a monté, descendu, comme font toutes les carrières musicales. C'est parfaitement normal. Puis le refuge, lui, a continué à monter tout le temps. C'est mieux que l'inverse, je veux dire, parce que le refuge, il ne faut pas se permettre de monter, descendre. Mais c'est mes deux passions, puis c'est mes deux passions parce que un gros bout d'opération de ça passe par des shows. Moi, t'as toujours passé par de la musique.
Mais justement, si tu avais à faire des choix, là, je dis pas qu'il faut le faire, là, mais ça veut dire que quoi? C'est la musique, les spectacles, je sais pas moi, le côté acteur, tu mettrais ça de côté, c'est vraiment la musique qui te fait lever, là.
Je pourrais tout mettre de côté, ça me ferait de la peine. Comme par exemple, je fais de la radio avec vous autres de temps en temps, en fait, je fais vos vacances, puis j'adore ça. C'est vraiment une grosse surprise à ma vie, puis je suis mordu. Mais si à un moment donné, il n'y en a plus. Mais puis la même chose, acteur, ou réaliser mes propres films, ou tout. Mais si maintenant je peux faire de la musique, là, c'est pas pareil, je vais m'éteindre, là. C'est vraiment la musique qui me tient ensemble depuis tout. Puis d'ailleurs, je te parle de mes films, mais quand j'écris une scène, c'est parce que j'entends une musique qui me met dans un mood, puis qui me fait écrire la scène. Et après ça, quand j'arrive à la fin du film, faire la musique du film, ben, je reprends l'idée de départ, puis fait que tout passe, mes émotions passent par la musique tout le temps. Moi, j'espère que je pourrais en faire longtemps, parce que c'est ça qui me garde. Là.
Est-ce que c'est la musique comme telle ou si parce que tu as des choses à dire en plus de la musique?
Ben, j'ai des choses à dire, mais on fait de la radio.
Oui, non, ça c'est sûr.
mais il faut que ça passe par la musique. Tout ce que j'ai à dire, c'est pas nécessairement des propos précis tout le temps, c'est... Quand j'écris de la poésie, on peut chercher le sens si on veut, mais c'est pas intéressant. Comme, tu sais, ça fait longtemps que je fais plus de vidéos sur mes tunes, parce que les gens écoutent une tune, ils se font leur propre image de l'histoire, puis après ça, tu viens leur en forcer un dans la tête avec une vidéo. Fait que ça, tu sais, je laisse les, ça n'a pas besoin d'être précis, ça a besoin d'être une émotion. Puis ça, tous ces propos-là, pour moi, passent tout le temps par de la musique. C'est pas l'exception.
Bon, parlons du show du refuge. C'est pas banal. Là. C'est le 30e cette année, mais évidemment présenté dans le contexte qu'on connaît. Et ce sera ici télé là, le dimanche 13 décembre à 20h. Comment vous êtes organisé cette année?
Bien, je parlais justement avec France, ma vieille chum, qui est directrice du refuge. Puis, j'ai fait réaliser que ça fait 30 ans qu'on était comme ensemble, si tu veux, en guillemets. Ça l'a un peu horrifié, moi j'étais content. c'est ma plus t'aider, c'est clair, hein, 30 ans, c'est quelque chose pour moi. Et j'ai dit, tout d'un coup, j'ai flashé, j'ai dit, regarde, le public va nous manquer parce que on filme des musiciens sur un stage avec une salle vide. Faut faire autrement. On va louer une salle plus petite, je vais occuper toute la salle, on va se mettre en rond avec les chanteurs dans le milieu, distanciés, mais en pouvant se regarder. Puis on va mettre des rails, des caméras sur des rails alentour, puis tout ça. Et puis là, ce qu'on a perdu avec le public qui nous porte d'habitude, on l'a regagné en complicité. Fait que, écoute, on s'est bien démerdé, comme une ministre qui a eu un mot malheureux, à un moment donné, on s'est réinventé.
Oui, mais dis-moi, mais en même temps, il y a toute la question du financement, il n'y a pas que le spectacle, il y a beaucoup d'organismes qui l'ont dur cette année, là. Des fondations.
Oui, on est tous, même quoi, toute la gang.
Oui, c'est ça. Mais comment vous allez faire pour financer vos activités?
Alors, quand je parlais avec France de mon stage en rond, je dis, toi, peux-tu monter une campagne de financement? On a des dons corporatifs aussi, mais c'est des gens qui font qui achètent des billets plus chers, mais c'est des gens qui viennent aussi travailler dans les cuisines au refuge, puis tu sais, ils sont vraiment impliqués. On a vraiment, en 30 ans, on s'est organisé un circuit avec du bon monde alentour de nous autres. Fait que nos dons corporatifs vont être là de façon solide, puis on va faire une campagne publicitaire qui a commencé d'ailleurs. On invite des gens à venir à un no show, un pot de show. Fait que, et puis quand ils payent, on les remercie pour leur absence. Fait que ça veut simplement dire que de toute façon, on sait très bien que le show est gratuit à Radio-Canada, mais si vous pouviez faire comme si vous veniez boire le show, puis c'est simplement un don au lieu d'un billet, je sais, tant que ça dure, cette pandémie-là. Et puis les gens à date sont très, très, très réceptifs, c'est que ça se passe bien. Et puis j'ai des garanties avec on avait réussi à en mettre un petit peu de côté. Moi, j'avais un rêve, je n'avais pas dit à personne pour l'instant, mais moi, je me disais que avant de crever, là, je vais leur mettre comme 4 ans de côté d'avance. Comme ça, s'ils sont mal pris à un moment donné, ou quand je serai plus là à un moment donné, ils auront le temps de survivre. Ben là, on n'aura pas ça. On va égruger dans les économies. Plus les dons qu'on a, plus le corpo, puis on s'en sort cette année, c'est correct. L'année prochaine, ce sera une autre histoire, on verra, mais cette année, on s'en sort très bien.
Je veux t'entendre aussi. Je parlais ce matin avec le responsable des programmes d'itinérance de la Ville de Montréal parce que ça a pas mal changé en l'espace d'un an. D'abord, des itinérants, des plus jeunes, des plus vieux, des sans-abri, des jeunes de ta gang là, qui vivent dans la rue, qui sont peut-être plus visibles qu'ils l'étaient dans le passé. Le fait aussi que c'est plus difficile pour eux de survivre parce que il y a moins de monde au centre-ville, il y a moins de monde en ville tout court, les gens sont craintifs d'ouvrir la fenêtre pour donner de l'argent. Quelle lecture tu fais, toi, de l'effet sur ces plus vulnérables là, de la pandémie?
Ce qu'il faut entendre, la façon dont notre économie est construite, c'est tout le temps, évidemment, les gens qui en arrachent le plus, qui payent le plus cher, le plus vite, puis qui sont les derniers à en sortir. C'est pointable. C'est pas juste qu'ils ont de la misère à avoir quelques scènes comme ça. C'est toi pis moi, on se promène, on n'a plus de change dans les poches, là, ces temps-ci. Mais c'est pas juste ça. Les magasins prennent plus de cash. Ils prennent, tu vois, les magasins d'alimentation, faut que tu fasses avec une carte ou ton PayPal dans ton téléphone. Mais les jeunes, ils ont pas ça. Fait que même quand ils réussissent à trouver 2-3 piastres, ils peuvent pas aller s'acheter une sandwich. Fait qu'il a fallu développer des nouveaux services au refuge. Par exemple, là, on fait des boîtes à lunch toute la journée. Puis on donne ça aux kids qui viennent au refuge. Ils peuvent pas tous rentrer. On est distanciés, nous autres aussi. Et puis, il y a aussi, ça sort hors sujet, mais ça ne l'est pas. Il y a les nouveaux itinérants. C'est-à-dire des gens qui travaillent, mais que les logements sont rendus trop chers. Ils peuvent plus se loger. Fait que c'est... une grosse partie des autres, c'était eux au campement sur la rue Notre-Dame. Là. C'est des gens qui travaillent, mais que c'est pas suffisant pour payer le loyer. C'est des nouveaux itinérants, puis ils savent pas comment faire, eux autres. Là.
Ils sont pas habitués, c'est pas un mode de vie. Là. Tu tombes, tu l'as sur la gueule, tu as perdu ton emploi, puis...
Oui. Mais là, c'est des nouveaux, fait que les autres, ça leur tomberait sur la tête en maudit, là.
Comment va la santé?
Très bien, très bien. Là, si tu parles du cancer, ça fait 3 ans. Là, je suis simplement en rémission. Je passe encore des examens. Ils sont toujours très beaux. Fait que moi, je considère ça plutôt fantastique. Oui, j'ai eu un solide accident de VTT. Un camion m'a rentré en derrière. Fait que j'ai eu des os cassés. Ils m'ont remplacé une clavicule. Fait que j'ai du métal dans mon corps. Après moi, je vais me faire fouiller dans les aéroports parce que...
Tu vas te mettre à sonner.
Je gagne pas mal. Tu sais, t'es rendu tout nu. Je dis, non, gars, je suis tout nu, quoi. Tu sais, c'est... mais bon, j'ai un os en métal. Mais je me suis très bien remis. Puis j'habite en campagne. Fait que toute convalescence, pour moi, est très douce ici. Fait que je fais pas partie des 100 personnes les plus malheureuses sur la Terre ici. Ça s'est très bien passé.
Et dis-moi, tu fais quoi au 98.5 durant le temps des fêtes?
Ah ben j'ai travaillé. Moi, je fête pas vraiment les fêtes. J'ai une période quand j'étais plus jeune où je détestais les fêtes. Puis après ça, j'ai eu mon fils. Ça m'a réconcilié. Puis là, c'est un peu différent. Moi, je les fête pas vraiment. Fait que quand Nadia, notre boss, m'appelle, tu travailles pour les fêtes, moi je suis le meilleur candidat pour travailler. Je fais rien.
Fait que tu vas travailler à quelle heure?
À l'heure d'Isabelle Maréchal, à 10h.
OK. Et tu vas parler de quoi aux gens pendant le temps des fêtes?
Ah, on parle un peu de tout. On parle des sujets du jour. Mais on va sûrement parler de comment ils traversent cette période-là. C'est qu'en fait, moi, j'ai dit à notre boss, Nadia, j'ai dit, écoute, j'écoute Mario Langlois le soir, puis il n'y a plus de game de hockey à décrire. Fait qu'il parle avec le monde, puis il est bon. Fait que je dis, c'est malin, t'as une idée, je sais pas, la fin de semaine, le matin, le soir, m'en fait. Puis t'as envie que je fasse ça, là, j'aimerais ça, moi, parler au monde. Je trouverais ça le fun. Ben, si mon gars revenait le midi, puis les autres boss disaient, Dan ne voudra pas lâcher sa case, ben, je dis, ben oui, je vais lâcher ma case, je vais prendre plus tôt. Puis, elle m'a dit, ben, tu vas pouvoir jaser au monde. Fait que moi, je trouve que tout est parfait, là. Je suis vraiment très, très content.
Heureux. Beaucoup ça, moi. Heureux de t'avoir parlé, puis on t'écoute, très bientôt. On est dans 3 semaines, à peu près. Merci, Dan.
T'es bien fait, mon pote.
Salut. Salut. Bye bye. Dan Bigras-Poncès avec un autre extrait, je vous le dis. Quand tu écoutes un album live qui a été fait en février à Québec, au théâtre du Petit Champlain, là, ça nous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, on pouvait y aller voir des shows.
Chapeau à peu près. Il dit, hey, mon cochon, regarde bien ta maison. Voilà blow, voilà ouais, voilà blow,
alors voilà pour Dan Bigras. On fait la pause et on vient tout de suite après, 9h48.